Ça fait du bien, hein? En tout cas, moi, j'ai été renouvelé dans ce moment de louange. Gloire à Dieu. Et j'avais vraiment ce sentiment qu'il était en train de vraiment de faire une œuvre dans nos vies, dans ta vie, tout spécialement. Et que ça, je sentais le cœur de Dieu qui vibrait. J'étais ému, je sentais le cœur de Dieu qui vibrait pour toi, qui vibrait pour ta situation, qui se souciait personnellement, spécifiquement, et du plus profond de lui-même, de ta vie. Et ça, c'est tellement bon. Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu n'est pas un Dieu éloigné, Dieu n'est pas un Dieu désintéressé de ce qu'on vit jusque dans les détails de nos vies. Parfois, nous, on a l'impression avec nos sentiments à nous, avec notre feeling à nous, des fois, on a l'impression qu'il n'est pas là, des fois, on a l'impression qu'il est un peu sourd, qu'il ne nous entend pas. On aimerait tellement l'avoir en chair et en os devant nous pour être sûr qu'il nous regarde bien dans les yeux, puis qu'il tend bien l'oreille quand on prie. Mais il est là, il est fidèle, il est là, il est là. Notre foi, alors qu'on la met en action nous atteste à notre être intérieur qu'il est là et qu'il se soucie de nous et se soucie de toi tout particulièrement ce matin. Amen. Je me réjouis d'être encore dans notre série de messages, sur réveiller les héros. Elle dure, cette série. J'ai plus envie de m'arrêter. Je vais continuer. Même quand je serai plus là, je continuerai encore. Là où j'irai, je continue. Saviez, j'étais dans une série de messages dans mon église à Yverdon et je continue parce que c'est tellement bon de s'arrêter là. Évidemment, je n'ai pas prêché ça tous les dimanches, étant donné qu'il y a des temps d'espacement entre mes différents messages. Je crois que je dois être à mon 6e, quelque chose comme ça. Vous pouvez réécouter les différents messages sur Internet, sur notre site Internet. Et je me réjouis. Ce serait infini, hein. On pourrait continuer longtemps encore, forcément il y a un moment donné il y aura un terme à tout ça, mais je me réjouis d'apporter ce message encore ce matin, vous raconter l'histoire, un bout de l'histoire, en tout cas ce qu'on sait, de l'histoire d'un homme ordinaire qui se posait des questions, d'un homme ordinaire qui doutait, mais qui finalement a choisi de placer sa confiance en Dieu au milieu d'un environnement hostile, pas favorable à la foi en Jésus-Christ. Intéressant ça. Je sais qu'il y en a plein parmi nous, vous êtes dans cette situation-là. Là où Dieu vous a placé. Peut-être dans votre famille, peut-être dans votre environnement professionnel. Là où vous êtes, dans un environnement qui n'est pas favorable à la foi en Jésus-Christ, qui n'est pas favorable. Vous avez l'impression d'être à contre-courant. Le nom de cet homme, c'est Nicodème. J'aimerais, au milieu du récit de son histoire que je vais vous raconter, faire ressortir trois choses que nous apprend sa vie et qui seront comme des inspirations pour nos vies ce matin. Je prie que le Seigneur puisse faire son travail dans nos vies par sa parole. C'est pas mon message qui ne va rien changer, mais j'ai conscience que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, on en a besoin dans nos vies quotidiennes. On va sortir d'ici dimanche, on a une semaine devant nous, vous avez des dossiers pour certains qui vous attendent au bureau, pour d'autres vous avez des situations compliquées dans votre famille, dans votre entourage, et il va falloir faire face à ces choses-là. La parole de Dieu, elle est suffisante, la parole de Dieu, elle est nourrissante, la parole de Dieu, elle nous fait du bien, elle nous porte, elle nous accompagne pendant nos journées, pendant nos semaines. Je prie ce matin que par son esprit puisse faire cette œuvre-là dans nos vies pour nous équiper, pour nous fortifier, pour nous faire du bien ce matin par sa parole. Amen. Amen, que ceux qui ont besoin de sa parole dans leur vie disent Amen.
Amen.
Vous êtes avec moi, ça va? Nicole, t'as dit Amen?
J'ai dit Amen.
Ah. Non, parce que... Ah. Premièrement, Nicodème cherchait. Nicodème était un membre du Sanhédrin. Il était un membre du Sanhédrin, c'était un juif religieux, un pharisien. C'est un pharisien, Thomas. Qu'est-ce que c'était magnifique, hein, une belle parenthèse. Vous avez un rôle, j'en discutais avec Nicole tout à l'heure, dans la voiture. Ils ont eu un rôle incroyable quand même, Thomas et Cindy. Ils ont eu le rôle des pharisiens, c'est les seuls qui se sont fait huer quand tout le monde a été applaudi à la fin. Moi j'aimerais qu'on les applaudisse vraiment à la fin du spectacle. À la fin du spectacle de Marthe Expérience, je le dis rapidement pour ceux qui n'étaient pas là et puis qui se disent qu'est-ce qui se passe, là il y a un truc bizarre qui se passe, ou ceux qui nous écouteront par internet, on a eu un spectacle magnifique dimanche passé avec des gens de l'église qui ont monté une troupe de théâtre et qui ont récité l'évangile de Marc et c'était magistral, c'était magnifique, et Thomas et Cindy ont eu le rôle, on leur a attribué le rôle des pharisiens, les pauvres, mais ils l'ont tellement bien fait que les gens s'y croyaient tellement, j'ai eu peur à un moment donné, je me suis dit est-ce que tu vas devoir intervenir pastoralement s'il y a des tomates qui partent, s'il y a des pierres qui sont lancées à la fin. J'ai dit non, c'est un frère dans la foi, il jouait juste un rôle, une sœur dans la foi. C'était super, vraiment. Mais ils l'ont bien joué, c'est vrai. Et Nicodème était un pharisien. Il faisait partie de ceux qui étaient hostiles à Jésus. Plus le ministère de Jésus avançait et se rapprochait du temps de sa mort, c'était des gens qui étaient hostiles. Et Nicodème était parmi ces pharisiens, docteur de la loi, qui avait la connaissance des écritures de la Torah. C'était vraiment un enseignant, un docteur. Ils étaient versés dans les écritures, ces gens-là. Alors, je fais juste un arrêt sur image quelques instants pour expliquer ce qu'était le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une assemblée de juifs religieux influents, des docteurs de la loi juive. Ils étaient 71, 71, et ils avaient pris, je me prépare pour le Québec, c'est pour ça, et ils avaient pris une grande place dans la vie religieuse juive à l'époque de Jésus. Une grande place, une grande influence. Ils interprétaient, ces membres du Sanhédrin, ils interprétaient et ils tranchaient la loi des Israélites à partir des sources écrites, des écritures qu'ils avaient et des sources orales aussi. Et d'ailleurs, de cela a découlé toutes sortes de lois en plus, la Mishnah, etc. C'est rajouté. Et puis de là a découlé ces choses-là. Et c'était aussi, le Sanhédrin était aussi un tribunal religieux. Et les membres du Sanhédrin, dont faisait partie Nicodème, exerçaient un contrôle légal sur le grand prêtre du temple et entre autres, ils avaient vraiment cette influence qui était forte. Et à l'époque de Jésus, sous l'occupation romaine, le Sanhédrin, ils avaient vu un peu leur pouvoir un petit peu amoindri parce qu'ils ne pouvaient par exemple pas condamner à mort. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont dû passer par Pilate, romain, pour pouvoir aller jusqu'à la condamnation à mort de Jésus. Alors Nicodème faisait partie de ces 71 pharisiens et religieux qui composaient le Sanhédrin. Alors il faut savoir que... ces membres du Sanhédrin, ils étaient, je l'ai dit tout à l'heure, mais ils étaient vraiment hostiles à Jésus, et plus le temps passait, plus Jésus faisait des miracles et du bien au peuple, et plus ils haïssaient Jésus et cherchaient à trouver un moyen de le tuer. Mais de son côté, lui, Nicodème, il était interpellé par les miracles que Jésus faisait. Il y avait un truc qui se passait à l'intérieur de lui, ça le travaillait. Et il était intrigué au plus haut point par cette puissance que Jésus avait, et il va avoir envie de se renseigner. C'est le premier texte, on voit trois textes qui parlent de Nicodème, dans l'évangile de Jean, les trois seuls textes de la parole qui nous parlent de Nicodème, dans Jean 3, dans Jean 7 et dans Jean 19. Et c'est le premier épisode de, où on voit Nicodème apparaître, c'est cet épisode-là. Un jour, c'est plus fort que lui, il se dit « il faut que j'aille me renseigner ». Et puis, il se dit « il faut que je le fasse un peu discret, parce que mes potes, là, mes 70 copains là, du Sanhédrin, s'ils savent que je vais un peu voir Jésus, ça va pas le faire, quoi, hein. Donc, il y va de nuit. Il va de nuit frapper à la porte, et puis Jésus ouvre, les disciples sont là, et puis Nicodème rentre. Et puis, il lui dit « je suis certain que tu es un envoyé de Dieu, parce que la manière dont tu nous parles et les miracles que tu fais, c'est juste quand même, quoi. C'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. » Il ne reconnaît pas encore, notez bien, vous lirez ça dans Jean 3, il ne reconnaît pas encore que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit juste, je reconnais que tu as été envoyé de Dieu. Que tu étais envoyé de Dieu parce que moi, j'essaie de faire ce que tu fais, puis je n'y arrive pas. Donc, enfin, maman, j'étudie les lois et tout ça, puis j'y arrive pas. Donc, il y a quelque chose de... Voilà. Et Jésus va lui dire, il te faut naître de nouveau, Nicodème. Enfin, Nicodème, il ouvre des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais je l'ai vu faire des miracles, j'ai entendu enseigner dans le temple, ça fait des mois qu'il fait ça, etc. Mais là, une énormité pareille, quoi. Comment il va lui dire, comment est-ce que je pourrais rentrer dans le sein de ma maman, retourner de nouveau à l'intérieur, puis renaître de nouveau? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Jésus va le regarder, puis il va lui dire, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Mais Nicodème, s'arrache les cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il cherchait Nicodème. Il se posait ces questions-là. Il était prêt à passer une nuit s'il le fallait pour aller poser ces questions-là, mais il ne comprend rien. Et c'est là qu'on arrive à Jean 3,16. Le chapitre 3 de Jean nous parle de Nicodème. C'est dans ce contexte-là que ce fameux verset, ce grand verset qu'on connaît tous, car Dieu a tant aimé le monde, Jésus va lui dire à Nicodème, il est en train de lui enseigner magistralement le salut. Il va lui dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est moi, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus avait compris que Nicodème, il cherchait, il avait compris que Nicodème se posait des questions parce qu'il voyait les miracles et puis il pouvait juste reconnaître, il ne pouvait que reconnaître qu'il se passait quelque chose de surnaturel, que c'était un envoyé de Dieu, cet homme-là. Mais il lui manquait l'essentiel, il lui manquait le salut, il lui manquait de reconnaître le Messie. Alors c'est ça qu'il lui dit, car Dieu a tant aimé le monde. Regarde, je suis là, il a donné son Fils unique, c'est moi. Pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Nicodème était pourtant docteur de la loi. Docteur de la loi. Mais il avait encore à apprendre beaucoup sur Dieu, sur Jésus lui-même. Et il va s'en donner les moyens, j'aime ça. Il va chercher, contre l'avis de tous ses potes, de ses copains, de ses collègues. Il est prêt à ne pas dormir de la nuit s'il le faut, pour chercher ce Jésus, apprendre à le connaître. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans nos vies, on a cette détermination, nous aussi, à chercher coûte que coûte, à apprendre à le connaître plus? Est-ce qu'on a encore ce désir de connaître mieux Jésus? On peut avoir l'impression d'en connaître beaucoup sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole. On a peut-être même baigné depuis tant d'années dans l'Église, entre deux pages de Bible. Mais la bonne nouvelle pour chacun, chacune d'entre nous ce matin, c'est que même un docteur de la loi qui passait ses journées à étudier la parole, a encore une immense marge de choses à découvrir sur Dieu, sur Jésus. Alléluia. C'est inépuisable. C'est merveilleux, quelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des bonnes choses en réserve pour nous. Elles ne sont pas épuisées. Et je prie que, de tout mon cœur, de ne pas être de ceux qui se lassent, qui se blasent de Dieu avec le temps. Avec les aléas, les épreuves de la vie. Je me rappelle, je l'ai déjà cité certainement, mais c'était tellement flagrant, en préparant ce message, j'avais cette image, j'avais cette pensée dans ma tête, de lorsque j'ai fait mon stage pastoral à l'église de Réveil de Genève en 2002, d'avoir eu le privilège de côtoyer encore à la fin de sa vie le pasteur Adolphe Hunziker, qui était le fondateur des églises de Réveil dans les années 30, qui a vécu un réveil à Genève et qui était un homme de Dieu extraordinaire, qui a implanté le mouvement des églises de réveil, qui était un homme qui avait une prédication remplie d'onction de Dieu. J'ai d'ailleurs une compilation de ses messages qu'on m'a fait cadeau quand je suis parti de Genève. Un frère âgé m'a donné la compilation, et il y avait une sœur pendant qu'il prêchait, qui dactylographiait ses messages, et puis qui en avait fait une compilation, puis j'ai une pile de ces compilations de ses messages, et je les lis de temps en temps, je me plonge dedans, je dis qu'est-ce qu'il prêchait à cette époque, et waouh, incroyable, ça me renouvelle extraordinairement. Et je me rappelle que de ma jeunesse de jeune pasteur stagiaire, j'aimais aller chez lui. Et je me rappelle encore les dernières fois que j'allais visiter avant qu'il s'en aille, il avait une leucémie, une forme de leucémie que les personnes âgées peuvent avoir. Il devait aller faire des, comment on appelle ça, ouais, c'était pas une dialyse, je crois pas, c'est que toutes les 3 semaines, on lui renouvelait son sang. Une transfusion de sang, toutes les 3 semaines, il devait aller faire une transfusion de sang, c'est ça. et ça l'affaiblissait dans son corps et tout ça. Et il avait perdu son épouse qui était décédée quelques mois auparavant. Et je me rappelle que je rentrais dans son appartement dans le quartier des Eaux Vives à Genève. Et j'aimais ça, il m'accueillait. « Oh Mathieu, bienvenue !» Et puis je rentrais comme ça, il avait une espèce d'éloquence comme ça quand il parlait. Et puis je rentrais dans son salon, il dit « Je ne me lève pas pour te saluer, tu sais, mes jambes ne me soutiendraient plus. » Et puis je venais le saluer, je l'embrassais, et puis je m'asseyais. « Assieds-toi !» Il avait des bouquins ouverts de partout, des commentaires bibliques, ses bibles, il avait des trucs d'études, il était en train d'écrire des choses, etc. Et moi je m'asseyais, et puis il me racontait ce qu'il était en train de découvrir. C'était juste extraordinaire. Je m'asseyais, puis j'ouvrais la bouche. J'essayais d'éviter que la partie inférieure de ma mâchoire tombe à terre, mais j'ouvrais la bouche. Waouh ! Et il parlait de ses dernières découvertes, la parole de Dieu, comme s'il la découvrait là maintenant. C'était extraordinaire, quoi. Et ça m'est resté. J'ai prié de tout mon cœur. Je me rappelle, je sortais de chez lui, j'avais juste une envie. Tu sais, c'est quand tu côtoies des hommes ou des femmes de Dieu, c'est en général, c'est ça que ça produit. Ça produit dans nos vies. On a envie, nous, de s'approcher plus de Dieu quand on passe du temps avec eux. Je sortais de chez lui et je priais, je disais, Seigneur, donne-moi la grâce de vieillir comme lui, Seigneur. J'aimerais être âgé comme lui, avec la vie telle qu'elle est, Seigneur. Chacun, elle est différente. Lui, il vit ses difficultés. Cet homme-là a une leucémie incroyable. Et il pourrait juste se plaindre, mais non. Il cherche encore à découvrir les choses de la parole de Dieu. Et on a le droit de se plaindre, comprenez-moi bien. On a le droit de dire à Dieu, c'est pas facile la vie. C'est pas un truc de, il faut cacher ça, faire comme si de rien n'était, comme si j'étais pas malade, comme si je ne souffrais pas. On s'entend bien. Mais quelle grâce d'avoir eu cet exemple devant mes yeux. De cet homme-là qui, au-delà de ces choses-là, disait « Seigneur, j'ai eu tellement envie d'être proche de toi jusqu'à mon dernier souffle, Seigneur. Il y a encore des choses en réserve pour nous. Il y a encore des bonnes choses en réserve pour toi. Quelle bonne nouvelle ! Nicodème cherchait. Nicodème cherchait. Et pourtant, il connaissait bien la parole de Dieu. Il connaissait la loi. Mais il cherchait ce Dieu. Il cherchait à le côtoyer. Il savait, il percevait qu'il y avait quelque chose de plus à vivre. Quelque chose encore de plus à découvrir. Des mystères cachés. Alléluia. Premièrement, Nicodème cherchait. Deuxièmement, Nicodème a été transformé, s'est laissé transformer. Alors que pendant cette nuit-là, Jésus va lui exposer le plan du salut d'une manière magistrale, extraordinaire, Nicodème a saisi. Nicodème a découvert ce trésor caché, ce mystère. Il en a fait la découverte, on ne le lit pas. Il faut lire entre les lignes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on voit le deuxième épisode, Jean 7, quand tout à coup, on voit le deuxième épisode où on voit Nicodème réapparaître quelques mois plus tard de cet événement qui s'est passé, c'est plus le même Nicodème. C'est plus le même Nicodème. On voit un changement dans sa vie. Ça parle encore plus que des mots, un changement dans une vie. Alléluia. Alors, ce deuxième épisode, Jean 7, je vous le raconte, c'était la fête de Soukhot, la fête des cabanes. La fête des tentes et des tabernacles, ça, tout ça en même temps, c'est la même fête. Ça se passait sur une même période d'une semaine, sur une période d'une semaine pendant l'automne, septembre-octobre à peu près, toute une semaine. Et Jésus et ses disciples étaient en Galilée, et puis les disciples disent, on va monter pour la fête quand même, hein, on va à Jérusalem pour fêter Soukhot. Et puis Jésus dit, c'est pas encore le temps, parce qu'il savait qu'en Judée, il y avait déjà des gens qui le cherchaient pour le mettre à mort, pour l'attraper puis le mettre à mort. Il dit, c'est pas encore mon temps, c'est pas encore le temps, mais vous allez-y, précédez-moi. Alors les disciples s'en vont, et puis juste avant, la Bible nous dit un peu en secret, parce que c'était pas encore le temps. En secret, Jésus monte discrètement à la fête, et puis il se retrouve à Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'au milieu de la fête, Jésus, je pense qu'il n'a pas pu s'empêcher, il fallait qu'il témoigne de l'amour. Alors il a commencé à prier pour des gens, il se passait des choses, et puis il s'est mis à enseigner. Il s'est mis à enseigner, et les gens étaient émerveillés de son enseignement. Alors les pharisiens qui étaient là, évidemment, c'était les seuls qui, eux, n'étaient pas émerveillés de son enseignement, ça les énervait de plus en plus, ça les irritait de plus en plus. Alors ils sont allés parler aux responsables du temple, ils sont allés aux responsables religieux, et les responsables religieux sont offusqués d'entendre que cet homme-là fait encore des siennes. Il se donne encore en spectacle, il fait encore des miracles, il fait encore des trucs, ça y est. Envoyez des huissiers pour l'arrêter. Alors ils envoient des huissiers, qui étaient des gens au service de ces gens-là, pour aller arrêter Jésus. Et ils arrivent, et la Bible nous dit que le dernier jour de la fête, Jésus va se lever dans le temple et va s'écrier. que celui qui a soif vienne à moi. Celui qui a soif vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront d'eux, comme dit les Écritures. Et alors qu'il dit ça, plein de gens sont émerveillés. Waouh, c'est lui, c'est le Messie, c'est le Christ. Mais il y a du mouvement dans la foule. Et il y en a qui se disent, non, c'est juste un prophète. Puis il y en a d'autres qui disent, non, il vient de Galilée. Ça n'est rien de bon qui peut arriver de là-bas. Non. Puis il y a un mouvement dans la foule qui est là. Et finalement, la foule s'éparpille comme ça. Et les huissiers retournent auprès des responsables religieux. Le Sanhédrin est là. Nicodème est là au milieu. Et puis ils reviennent sans Jésus. Alors qu'on leur avait donné le mandat d'aller chercher puis d'arrêter Jésus, là, ça suffit maintenant. Et puis les pharisiens, les responsables religieux, vont leur dire, mais vous faites quoi? Vous avez envoyé pour aller chercher Jésus, il est où? Pourquoi vous n'êtes pas avec lui? Ça suffit maintenant. Vous êtes. Et puis les huissiers sont là, puis la réponse qu'ils donnent, c'est, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'il dit. C'est tellement incroyable ce qu'il dit, c'était impossible pour nous de le prendre. C'est merveilleux ce qu'il dit. Puis là, ça les irrite encore plus, les responsables pharisiens, les membres du Sanhédrin sont là, puis c'est pas possible, vous faites partie de la même équipe qu'eux, vous êtes partie de la même gang qu'eux, etc. Vous tous des maudits, ils vont dire ça, vous tous des maudits, tous ceux qui croient en Jésus. Et puis là, Nicodème se lève. Mon Nicodème, c'est mon héros. J'aime ça, j'aime voir ça, comment Dieu transforme les vies. Nicodème se lève au milieu de ce tumulte, au milieu de ces potes-là, qui sont tous irrités, puis qui veulent juste la mort de Jésus. Lui, il va se lever, puis il va tenir pour Jésus. Tout seul au milieu. Il va juste leur dire une chose, et ça, c'est extraordinaire. Il va juste leur dire une chose. Il va rappeler une loi. Il va dire, la loi, notre loi religieuse ne nous permet pas de condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Bing. Puis là, ses potes sadducéens sont là, ils sont un peu comme ça, c'est ma version, hein, mais c'est un peu ça, ils savent plus quoi dire. La seule chose qu'ils disent, c'est, quoi, toi aussi t'es un Galiléen ou quoi? C'est ça qu'ils répondent. Et puis la Bible nous dit juste après, ils s'éparpillent, rentrent tous chez eux. C'était pas le temps. Et Nicodème a été utilisé par Dieu, parce que sa vie lui appartenait, il était utilisé par Dieu pour prolonger encore le temps avant que Jésus, que ce soit le temps de la prophétie pour que Jésus s'en aille. Extraordinaire! Au milieu d'une foule hostile à Jésus qui voulait le tuer, un homme, mon Nicodème, qui va défendre et réussir à laisser sans voix les pharisiens qui d'habitude avaient la parlette facile et qui vont partir chacun de leur côté ce jour-là. Nicodème avait été transformé, il était convaincu. Il avait cette foi, cet enthousiasme que le Saint-Esprit nous donne dans les circonstances de nos vies, qui était prêt à se lever, sachant pas ce qui allait se passer, parce qu'ils étaient tellement irrités contre ce Jésus, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire à lui aussi. Et c'était pourtant dans son milieu de vie. Le Sanhédrin, c'était des connaissances à lui, ils passaient tellement de temps ensemble, étudier la parole, c'était son milieu de vie. Je vais m'en faire une parenthèse ce matin, et encourager les frères et sœurs qui ont un accès, là où vous êtes, là où Dieu vous a placé, un accès, une place, une influence. Et en particulier dans le monde politique. J'aime l'idée que Dieu a placé des disciples de Jésus dans le Sanhédrin. Dans le cœur même de la politique religieuse de l'époque. Parmi ceux qui légiféraient, qui décidaient, et parmi les ennemis de Jésus. Et aujourd'hui encore, Dieu place des chrétiens dans le monde politique pour influencer, pour être là lorsque les décisions sont prises qui auront une influence sur un village, sur une commune, sur une région, sur notre pays. Je ne parle pas ici de tendance ou de parti politique, mais d'une présence, d'une implication avec les valeurs chrétiennes dans ces sphères d'influence. Et je bénis ceux et celles qui sont impliqués en politique parmi nous. Il y en a évidemment d'autres églises aussi. Je les bénis. Je les bénis. Tous ceux et celles qui sont appelés à avoir une influence aujourd'hui et dans les années à venir. Dans les temps politiques que nous vivons aujourd'hui, crispés, préoccupants, alors que l'extrême droite monte dans beaucoup de pays, on le voit aux États-Unis, on suit les résultats préoccupants de Donald Trump et ce désir de mettre des murs entre le Mexique, etc., et toutes sortes d'autres choses en Autriche, le Front National en France, etc., avec les défis de l'immigration de masse, le terrorisme et tant d'autres défis, parfois comme des casse-têtes pour les politiciens. Comment on va faire? Il y a besoin de frères et sœurs avec les valeurs du royaume de Dieu qui se tiendront là, qui pourront influencer comme Nicodème l'a fait, là où il était. C'est tellement important d'avoir des chrétiens dans des postes clés, dans des postes à influence, pour faire une différence parfois en rappelant des lois pour ne pas glisser dans des choses illégales ou malsaines comme Nicodème l'a fait. Mais plus loin que ça encore, l'exemple de Nicodème nous encourage chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à refléter Jésus à notre place de travail, là où il nous a mis, au milieu des gens qu'on côtoie au quotidien, ceux sur qui on peut avoir une influence, et de tenir fièrement la bannière. La bannière des valeurs de l'Évangile. Sans faire du prosélytisme à tout va, on s'entend. Attention le balancier. Mais de saisir les occasions comme Nicodème l'a fait. Tout simplement, rappeler un article de loi, un terme qui démontrait qu'ils étaient en train de rentrer dans l'illégalité dans la manière dont ils faisaient les choses. Hein ? On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Pac. Porter les valeurs du royaume de Dieu, là où on est. Si tu es là où tu es, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu te donne un cercle d'influence. Petit, grand, peu importe. Tiens-toi pour Dieu. Tiens-toi disponible pour Dieu, alerte. Nicodème a été transformé et a transformé l'entourage dans lequel il était, fait la différence. Troisièmement, ce matin, Nicodème était passionnément attaché à Jésus. Il l'est devenu parce qu'il l'a laissé faire son travail dans sa vie et qu'il s'est tenu ferme pour avoir les valeurs du royaume encore là et pas s'est glissé dans des... Ah, personne ne me voit. Tac, petit écart. Dernier épisode où on voit Nicodème apparaître dans la parole de Dieu, Jean 19. Jésus est mort sur la croix. Et alors qu'il est mort sur la croix, il y a un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée qui, apparemment accompagné de Nicodème, comme ça que c'est mentionné dans l'évangile de Jean, va aller devant Pilate pour réclamer, demander s'il pouvait prendre le corps de Jésus pour aller l'embaumer, pour aller le mettre au tombeau. Et Pilate lui donne l'autorisation. Alors, avec Nicodème, ils vont à Golgotha. Ils vont chercher le corps de Jésus. Ils le prennent. Et puis, la Bible nous dit que Nicodème va amener 30 kilos d'un mélange parfumé de myrrhe et d'aloès. Et puis, ils vont prendre le corps de Jésus et puis ils vont l'enduire de ce parfum. Et puis, ils vont mettre des bandelettes autour de son corps, de tissu. Ils vont mettre des aromates. Ils vont le porter dans le tombeau, ils vont le déposer là, ils vont rouler la pierre. Et on connaît la suite. On connaît la suite. C'était le vendredi, samedi, Shabbat, personne n'est allé, et le dimanche matin, alors que Marie vient, la pierre était roulée et Jésus était ressuscité. C'est fou! L'évolution dans la vie de Nicodème qu'on peut percevoir à travers ces trois récits. En premier, il doute, il questionne Jésus, il cherche. Il n'est pas encore né de nouveau. Et Jésus va le prendre, et va l'amener pas à pas vers la découverte de la liberté en Jésus, du salut. Alléluia. Dans le deuxième récit, on voit qu'il est passé dans le camp de Jésus. Ses collègues du Sanhédrin vont d'ailleurs lui reprocher, tu fais partie d'eux, tu es aussi un Galiléen, toi, dis donc. Et il va défendre Jésus. Et dans la dernière apparition de Nicodème, on le voit faire ce que personne n'ose faire. Personne d'autre. Il va venir réclamer le corps de Jésus et va le préparer pour le mettre au tombeau. Et lorsque j'ai relu ces textes, lorsqu'on relit ces textes, et qu'on cherche à comprendre le contexte, qu'on se met en situation, et en particulier dans les moments qui ont suivi la mort de Jésus sur la croix, il y a une question qui me vient, qui m'est venue. Mais où était la famille de Jésus? Mais où étaient ses proches? Où étaient ses disciples? Avec qui il avait tellement investi de temps, avec qui il avait passé tellement de temps, avec qui ils avaient vécu tellement de choses fortes qui les avaient unis. Les disciples avaient été jusqu'à dire, moi on serait prêt à mourir pour toi. Où sont-ils? Ils avaient fui. Ils avaient décampé. Puis loin de moi, la pensée de leur jeter la pierre, j'aurais certainement fait la même chose. Pris de panique, après avoir vu leur héros être malmené, leur héros comme une brebis qu'on mène à la boucherie, nous dit le prophète Isaïe. Muet devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Prophétisait Esaïe, c'est exactement ça qui s'est passé. Et là, les disciples, combien de fois t'as fait des miracles? Vas-y, laisse-les pas faire. Quelques heures auparavant, alors que les soldats venaient pour l'arrêter, c'est juste tenu devant eux et puis pouf, tout le monde est tombé. Tu peux le refaire, Seigneur. Et il voit Jésus comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Muet devant ceux qui l'attendent, on l'a frappé, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On l'a fouetté dans le dos. 40 coups moins 1, 39. Ça va, les maths, ça. Je m'en rappelle encore. Avec un flagellum. C'était pas juste un fouet comme on voit au cirque, clac, qui sont faits pour que ça claque. C'était des fouets qui étaient faits pour mutiler. Un flagellum, c'était un fouet romain sur lequel on accrochait des bouts d'os, des bouts de pierre. Et puis quand on fouettait, il s'enroulait autour de la personne, puis il tirait dessus, puis ça arrachait des bouts de peau. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, quand on dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, littéralement dans le texte, ça dit par sa meurtrissure nous sommes guéris. Son corps était une meurtrissure. On lui a planté une épée dans le côté. Et c'est Joseph d'Arimathée et Nicodème que finalement Jésus connaissait peu, qui vont aller demander l'autorisation à Pilate de récupérer le corps. Les textes nous disent que les 30 kilos de ce parfum que Nicodème avait acheté, d'un mélange de myrrhe et d'aloès, c'était très précieux. Certains commentateurs que j'ai lus disent même qu'on comparait, ce mélange était comparé, était négocié au même prix que l'or. C'était un parfum très coûteux. Mais au-delà de ça, cette scène devait être incroyable. Imaginez-vous, je me suis mis aux situations comme je le fais souvent. Et quelle révélation, un peu de cette révélation, Joseph d'Arimathée, Nicodème, qui vont aller chercher le corps de Jésus, qui est plus qu'une meurtrissure. Et ils le portent, ils le prennent avec eux. Et ils vont, je ne sais pas où est-ce que c'était déjà dans le tombeau ou est-ce que c'était ailleurs. Ils vont se mettre à prendre ces 30 kilos de parfum. Ils vont prendre 30 kilos de parfum, clac, et puis ils vont se mettre à enduire le corps de Jésus, c'est son corps. Son corps qui est mort. Il devait y avoir du sang de sa couronne d'épines qui avait coulé. Son dos était labouré. Il y avait un trou dans son côté qui était là, les trous dans ses mains, dans ses pieds. Et puis eux, ils vont le laver, ils vont le nettoyer, ils vont prendre le temps de répandre sur son corps ce parfum de myrrhe et d'aloès. Ils vont toucher son corps, ils vont étendre leurs mains sur ce corps. Incroyable ce moment, incroyable. Incroyable. Quelle émotion. Quelle émotion. Quel amour, quel amour, quelle sollicitude, ce Nicodème. Quelle transformation dans sa vie. Ce que personne n'a voulu faire, il l'a fait. C'est mon héros, après Jésus. Est-ce que dans ma vie, parce qu'on en revient à nous finalement, si c'est juste pour lire des textes et puis faire des analyses de textes, c'est bon, c'est intéressant. Mais on en revient à nous. La parole de Dieu vient toujours nous interpeller dans nos vies avec tellement de douceur et d'amour et nous attire à lui. Est-ce que je cherche à honorer Jésus dans ma vie comme l'ont fait ces deux hommes? À prendre soin, à chérir ce Jésus dans ma vie. Comme l'ont fait ces deux hommes, comme l'a fait Nicodème. Est-ce que j'ai chéri sa présence dans ma vie avec autant de sollicitude que l'on fait? Quelle image de ces deux hommes qui embaument ce corps de leur Seigneur et de leur Sauveur? Est-ce que dans mon quotidien, est-ce que dans mes relations, est-ce que dans mes pensées, est-ce que dans mes attitudes, est-ce que je cherche avec autant de sollicitude à révérer Jésus en moi par son Esprit? Ne pas attrister le Saint-Esprit dans mes comportements, dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes décisions, mes choix de vie. Peu importe ce qu'on va penser de moi. Nicodème est vraiment un héros magnifique et privilégié. Et il y a aussi cette pensée, je terminerai avec ceci, cette pensée qui me touche profondément. Alors que, imaginez-vous le contexte, alors que le dernier geste qu'on peut lire de Nicodème dans la Bible est celui où il va décrocher le corps de Jésus, il va prendre soin de l'embaumer. Imaginez-vous cette odeur du parfum de la myrrhe et de l'aloès. Était tellement forte qu'elle masquait évidemment, c'était la coutume juive de mettre ces choses-là, ces parfums-là sur le corps des défunts. Elle masquait pour qu'elle masque les corps qui se décomposaient, évidemment. Et cette odeur sur le corps de Jésus, il l'avait quand il est descendu dans le séjour des morts. Aller chercher la clé des mains de Satan, la clé de la mort. Il avait cette odeur. C'est extraordinaire, il avait cette odeur de ce parfum que Nicodème avait pris le temps avec Joseph d'Arimathée de mettre sur son corps. Il portait ce parfum-là. Et quand il est remonté, juste avant, quand il a dit qu'il a apparu à Marie, il a dit « Touche-moi pas parce que je dois encore remonter auprès de mon Père », il avait cette odeur-là encore. Et quand il est arrivé auprès de son Père, il avait cette odeur que Nicodème avait pris de mettre sur son corps. Alléluia, quelle pensée extraordinaire! Quelle pensée extraordinaire. Posons-nous cette question ce matin. Et je terminerai là-dessus. Quelle odeur répandons-nous aujourd'hui autour de nous? Ce n'est pas tellement à nous de le dire finalement. C'est ceux qui sont autour de nous. Quelle odeur est-ce que les gens qui sont autour de moi sentent, qui se dégagent de ma vie? Est-ce que c'est la colère, l'emportement, la critique, le jugement, les doutes et les inconséquences? Le non-pardon? Que Dieu fasse son œuvre dans nos vies en profondeur. ce ne sont pas ceux qui parlent du parfum qui reflète le plus Jésus. C'est ceux qui sentent l'odeur de Jésus, qui témoignent le plus de sa vie, une transformation intérieure. Ceux qui ont choisi d'ouvrir leur vie, répandre, de s'ouvrir et de laisser Jésus en nous dégager son parfum autour de nous. Amen. On va faire un temps de silence et puis je terminerai par la prière. Je prie, Seigneur, ce matin que tu viennes faire grandir en nous cette passion qui vient de toi, que Nicodème avait découvert à travers le salut. Cette joie du salut, Seigneur, parce qu'on a compris ton sacrifice à la croix, parce qu'on s'en rappelle, parce qu'on nous mesure tout à nouveau l'étendue de ce prix que tu as payé. Je prie que ce casque du salut soit bien ancré sur notre tête. Si on l'a rangé quelque part au fond d'une armoire, je prie ce matin, Seigneur, que tu nous le remettes sur la tête. Nicodème avait découvert ce salut en Jésus-Christ et rien ne pouvait égaler cela. Ni l'hostilité de ses contemporains pharisiens, ni la peur de ce qui aurait pu lui arriver, ni le fait de se retrouver seul avec les questions, pourquoi c'est moi qui dois, pourquoi moi décrocher ce corps, pourquoi moi de le faire, où est la famille? Au lieu de se poser ces questions-là, il l'a fait tout simplement. Il a juste marché dans l'obéissance. Parce qu'il savait. Il connaissait son sauveur. Je prie que tu puisses tout à nouveau, tout fraîchement, renouveler en nous cet amour, ce désir de te connaître plus, cette décision d'être prêt, même à payer le prix. Pour tenir haut la bannière de tes valeurs. De Jésus-Christ, de l'Évangile. Alléluia. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Entraîne-nous, Seigneur, plus proche de la croix. Plus proche de la croix, jour après jour, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Oh non, Seigneur. Garde-nous tout proche de toi, s'il te plaît, Jésus. Nous en avons besoin et nous en aurons besoin. Ton nom soit béni, Seigneur. Amen.